Bonjour, vous êtes dans Lille Info. On va parler aujourd'hui d'un sujet assez brûlant, hein, puisque enseigner, c'est un métier qui s'apprend, un métier qui mériterait peut-être aussi d'être valorisé. En tout cas, les conditions actuelles du recrutement d'enseignants pose en partie problème, selon les disciplines, bien sûr. Nous allons faire le point sur cette campagne initiée donc par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, avec Monsieur Salam Aouche, qui est donc vice-président en charge de la formation et donc tout au long de la vie à l'université Lille. Monsieur Salam Aouche, bonjour.
Bonjour à vous, merci de m'accueillir ici.
Donc j'allais dire meilleurs vœux.
Oui, meilleurs vœux, vous ici, à Radio Campus.
Alors, on peut aussi souhaiter nos meilleurs voeux à tous les enseignants, à tous ceux qui veulent le devenir.
Tout à fait, en particulier donc tous les étudiants qui sont soit dans des licences pour préparer le professorat des écoles ou directement dans des masters pour ce qu'on appelait avant les CAPES, les CAPET, et tout ce qui est enseignement dans les lycées et collèges.
Alors, effectivement, pour présenter ses voeux, on va redéfinir le cadre. L'enseignement, a subi quelques petites modifications depuis une vingtaine d'années, quelques réformes. Même dans les formations des professeurs des écoles, par exemple, hein, il y a eu UFM, mais maintenant ça change, il va peut-être y avoir d'autres choses. Enfin, tout ça bouge pas mal. Il y a aussi, par contre, une seule chose qui n'a pas beaucoup évolué, ce sont les salaires, peut-être.
Je ne saurais pas dire exactement comment touche tous les enseignants, en particulier ceux de lycée et collège, mais ils ne touchent pas beaucoup dans la mesure où il manque d'attractivité très importante puisque certains postes ne sont pas pourvus au concours de cette année, par exemple.
Alors évidemment, c'est cet état des lieux ne touche pas tous les secteurs de l'enseignement.
Ça touche plus prioritairement, je pense, les mathématiques chez nous, les lettres à Lille 3 et d'autres encore formations, mais c'est là où il y a vraiment les postes non pourvus. Ailleurs, on manque quand même d'attractivité. On passe par moment de 80 étudiants dans une formation qui est préparée le CAPES. Par moment, on passe à 50, mais par moment, on redescend à 25-30.
Alors, c'est vrai qu'entre-temps, dans le privé, d'une manière générale, dans les entreprises, certains de nos étudiants ont pris de la valeur ajoutée, et c'est un peu l'objectif aussi des formations universitaires à Lille.
Il est exact que la dernière réforme, c'est celle qui concerne la mastérisation, a allongé les études. Donc, ça ne permet pas à tout le monde de pouvoir se payer des études sur 5 ans. Et d'autre part, faire un master, c'est un peu en concurrence avec les masters dits professionnels qui, dans l'entreprise, disons, cartonnent en moyenne à 2000 euros net par mois et sur des CDI où ils ont peut-être une plus grande reconnaissance que celle que l'on propose actuellement dans l'enseignement.
Alors, c'est surtout vrai à court terme, on va dire, parce que c'est vrai que dans la fonction publique, il y a une grille de salaire
Tout à fait.
et qu'en démarrant une carrière, on est en bas de l'échelle et qu'après, il y a tous ces échelons à gravir.
Je pense qu'heureusement qu'il y a cette progression parce qu'on retrouvera sinon pas beaucoup de monde dans l'enseignement et on a besoin effectivement de ses collègues parce que c'est par eux que viennent nos étudiants.
Donc effectivement, quand on est jeune et qu'on a besoin d'argent, souvent on s'installe, on se marie, on a une maison, des enfants, on a besoin tout de suite d'argent et pas seulement de démarrer au bas de l'échelle. Enfin, c'est quand même une vraie question économique.
Je pense que surtout dans notre région, si on commence d'abord par les étudiants, il y en a beaucoup qui sont boursiers. Il y en a un peu plus de 40% qui font une dizaine, 12 heures par semaine de travail. Et que dans ce qui concerne l'enseignement, disons, aussi bien de l'école primaire ou dans les lycées et collèges, avant c'était à l'issue de la licence, on pouvait avoir un salaire, ce qui n'est plus le cas maintenant. Il faut encore attendre 2 ans pour pouvoir bénéficier de ça. Donc c'est après, le salaire n'est pas, disons, à la mesure de l'effort fourni. Les étudiants préfèrent plutôt, à mon sens, faire autre chose.
Et c'est vrai que même en période on va dire, de crise, entre guillemets, et de chômage, on aurait pu s'attendre à une attractivité particulière de la fonction publique.
A priori, c'est vrai que ça se ressent, mais peut-être que le chômage touche beaucoup plus des moins diplômés que des diplômés de master. C'est ça aussi la difficulté. Moi, disons, les enquêtes que nous faisons pour l'insertion professionnelle, on les fait chaque année. On demande où sont nos étudiants 2 années après la sortie. Il n'y a pas de difficulté. On progresse plutôt qu'on diminue. En moyenne, on est à peu près 93-94%. Il y en a qui sont à 100% d'emploi. Il y en a qui sont à 90%. Donc, dans la moyenne, on est très bon. Je pense que sur nos masters, on n'a pas de difficulté. Du moins, j'espère qu'on n'aura pas et pas encore.
Alors c'est vrai qu'en 20 ans, on a vu aussi une montée en charge des diplômes requis, on va dire, pour être enseignant. Là, on est sur un niveau Master 2. Il fut un temps où on pouvait être, ce qui était professeur des écoles avant, donc instituteur, sans forcément avoir toute cette formation et cet investissement, à la fois en temps et en argent, que représente une formation.
Tout à fait. Je pense qu'avant, pour être, il y avait l'école normale, puis après les UFM en tant qu'institut ou école indépendante, puis plus récemment, l'intégration des UFM dans les universités et la masterisation qui est venue juste derrière. Donc, je suppose qu'il y a quelques années, pour aller à l'école normale, c'était plutôt le brevet ou la troisième. Et puis après, c'était devenu la licence un peu pour passer le CAPES et pour aller professeur des écoles. Et maintenant, on est au master pour les deux.
Alors c'est vrai que du temps de l'école normale, hein, on peut peut-être revenir un petit peu à cette époque-là, des étudiants, et parfois pris au niveau de la classe de seconde, avaient une bourse qui leur permettait j'allais dire presque de vivre déjà en étant étudiant à l'école normale, et que bien sûr ils s'engageaient sur une période de 10 ans si ma mémoire est bonne, et qu'à partir de là ils devenaient enseignants en ayant un engagement mais qui était réciproque, c'est-à-dire que l'État a amené un financement qui permettait d'assurer les études et même de vivre en quelque sorte, et ensuite l'enseignant s'engageait à rester au moins 10 ans au service du service public.
Tout à fait, je ne sais pas combien effectivement est touché les trucs, mais dans l'état actuel des choses, ce qui va arriver, ce qui est promis, c'est qu'au niveau master 2, ça veut dire la deuxième année, il y aura une forme d'alternance où l'étudiant est à une partie du temps dans les écoles, les lycées, les collèges, et une autre partie donc à l'université, mais il aura un salaire. D'accord. Donc ça veut dire, mais il a quand même un M1 dans lequel il y a la bourse normale qu'on donne à tous les étudiants. Il y a, disons, une prime qu'on appelle une prime donc au mérite, qu'on donne à certains étudiants pour pouvoir tenir le coup. Et ce qui va arriver, c'est il y a aussi ce qu'on appelle les emplois d'avenir professeurs. Il n'y en a pas pour tout le monde, mais pour lesquels aussi il y a une aide de l'État qui peut être cumulée soit avec un autre travail, soit avec une bourse, mais moyennant 12 heures de présence dans un établissement. Mmh. Il y a une aide, mais je pense que ce n'est pas encore suffisant pour une attractivité comme on l'avait peut-être il y a 20 ans, comme vous le dites.
Donc on peut dire qu'il y a une certaine période, hein, alors on peut dire 5 ans, 10 ans, où on n'a pas vraiment pris en compte les conditions nécessaires à ce recrutement dans le futur. Je parle de ça il y a 5 ans ou 10 ans, et que maintenant on paye un petit peu les pots cassés d'une politique qui n'a pas été ajustée en fonction des besoins réels et des conditions de vie de ces personnes qui veulent être enseignantes ou qui le sont, et qui ont besoin aussi de s'insérer non seulement économiquement mais aussi socialement, peut-être dans une société qui n'a pas été toujours généreuse à leur égard.
Tout à fait. Quand on parle de reconnaissance, c'est pas uniquement de salaire. Il y a quelques années, un enseignant aussi bien du primaire que du secondaire était peut-être la personne qui détenait une partie de la science, pour ne pas dire une grande partie. Mais actuellement, avec tout ce qu'on entend, ils ont quand même plus de difficultés, surtout, je dirais, dans certaines zones où il y a un peu plus, on fait un peu plus, disons, le policier pour rétablir l'ordre qu'enseigner. Donc ça fait un peu peur de ce côté-là. Et de l'autre côté, les jeunes qui arrivent exigent un diplôme, mais il n'y a pas nécessairement une formation professionnelle pour tous. Même si je dis qu'à Lille 1, ce n'est pas uniquement à Lille 1, puisque les formations sont faites de manière régionale avec les universités, que la partie professionnelle est assurée par l'UFM, qu'on prépare quand même nos étudiants à enseigner. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça veut dire qu'on arrive à avoir des enseignants qui ont eu le concours, qui sont employés et qui, effectivement, ont démissionné parce qu'ils ne supportaient pas la charge de travail, la charge plutôt morale, que la charge, je dirais, le temps à passer, parce que les classes sont un peu plus dures.
Mmh. Alors, c'est vrai qu'on leur a donné une mission qui n'est pas facile. Ils jouent parfois un peu les pompiers et aussi Il représente, sans le vouloir, parfois des politiques qui ne sont pas bonnes dans les quartiers où il se retrouve. Et ça, c'est quelque chose peut-être aussi, avant d'intégrer le métier, c'est-à-dire psychologiquement, se préparer à supporter.
Tout à fait. D'abord, ils n'ont pas cette formation. Ça veut dire que quand on forme quelqu'un à enseigner des maths, de la physique, on ne le forme pas de manière psychologique, voire même sociologique, pour comment se comporter effectivement lorsqu'il y a des difficultés. C'est-à-dire on les forme à enseigner, à préparer son cours, des choses comme ça, mais pas forcément à bien tenir une classe. On ne les recrute pas suivant des critères plutôt professionnels ou de tenue, mais plutôt des critères plus académiques, puisqu'il y a l'admissibilité, c'est l'écrit. Il faut être bon en écrit pour pouvoir passer l'oral. Et l'oral, c'est comment présenter un cours. Donc, il y a des choses, je pense, qu'on devrait faire effectivement avant. Et puis, il y a les jeunes. Il faut peut-être qu'on les ménage un peu les premières années. On les envoie dans des lycées où ils ne vont pas avoir peut-être 30 élèves dans une classe, où c'est plutôt calme. Et puis, les accompagner pendant leurs premières années, peut-être pas tout le temps, pour qu'ils supportent un peu cette charge. Une fois qu'ils ont un peu l'expérience, ils peuvent effectivement se débrouiller d'eux-mêmes, voler de leurs propres ailes.
Alors c'est vrai qu'on est dans un moment assez délicat où à la fois on est dans une période de crise économique et aussi quelque part une crise sociale.
Je n'irai pas jusque-là parce que je dirais qu'en France on se porte plutôt bien, même s'il y a une crise effectivement économique certaine. Mais de ce côté-là, on ne doit pas parler de crise, des crises économiques, on ne doit pas toucher l'éducation des enfants. L'éducation, c'est parce que c'est justement l'avenir donc, de la nation. C'est par cette génération qu'on arrivera à mieux reconstruire l'économie. Et une chose, l'investissement dans l'éducation, c'est la chose peut-être la plus importante. Il n'y a pas de notion de rentabilité parce que ça se mesure sur des années et que bien former les enseignants aidera à mieux former les futurs cadres de la nation.
Donc on a bien entendu certaines déclarations, des prises de position qui font que l'éducation redeviendrait une priorité. Est-ce que derrière les moyens financiers et la reconnaissance aussi liée à ce statut d'enseignant vont évoluer? C'est quand même une bonne question en ce début d'année 2013.
Je pense qu'il y a des choses positives. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas, on est encore un peu dans le doute. Je pense que les demandes des recteurs, c'était pour le 14 janvier. C'est d'abord les créations ou ce qu'on appelle l'accréditation des ESPE. L'ESPE veut dire École supérieure de professorat et de l'éducation. C'est-à-dire, est-ce que l'école sera à l'intérieur d'une université ou à l'intérieur de ce qu'on peut appeler un PRES, ça veut dire un ensemble donc, d'universités. Comme chez nous dans le Nord, ça sera beaucoup plus à l'intérieur du PRES qui sera composé des 6 universités. Donc ça, c'est un peu d'abord la structure. Mais en ce qui concerne le cahier des charges, on a des brides de cahier des charges de la formation. Par exemple, le concours pourrait avoir lieu au milieu de M1, ce qui ne pourra pas tenir compte de la partie professionnelle, justement. Parce que si le concours se termine à l'issue du M1, par exemple, toute la partie professionnelle est faite plutôt sur la deuxième année de master. Non, mais par contre, le fait de pouvoir donner un salaire, enfin, qu'il mérite quand même, on ne lui donne pas à quelqu'un qui va travailler en alternance et continuer à faire ses études, est certainement un point positif. Mais est-ce que c'est suffisant pour assurer une certaine, je dirais, une plus grande attractivité? Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, parce qu'on passe quand même d'une période où on a une licence, on a un salaire, à une période où on a une licence, on fait effectivement donc une première année de master, on passe les concours qui commencent au milieu, qui se terminent à la fin de l'année, et ce n'est qu'en M2 qu'on aura un salaire. J'avoue que je ne sais même pas de combien, est-ce qu'il sera assez attractif pour attirer pas uniquement des étudiants, mais aussi de bons étudiants susceptibles à la fois de réussir, mais aussi de bien former.
Voilà, donc on a bien compris l'urgence à être réactif pour améliorer les choses de ce côté-là. Il y a une campagne donc, de recrutement qui est réalisée actuellement pour recruter des professeurs, des enseignants. Les modalités, ça se passe comment? Quand on veut être enseignant, par exemple, est-ce qu'on peut être professeur où on le souhaite, en collège, en lycée ou en école primaire, en maternelle, que sais-je, ou à l'université? Comment on peut concourir? Est-ce que ce sont des concours communs? Est-ce qu'on peut après se différencier? Voilà, en fait, il y a différents niveaux dans l'enseignement qui peuvent correspondre à des peut-être des spécialités aussi très différentes, non?
Il y a d'abord deux catégories. La catégorie qu'on appelle PE, c'est le professorat des écoles. On devient professeur des écoles après le concours, effectivement, et un master obtenu. Le concours, si je regarde ces derniers temps, se passe plutôt en M1. Cette année est une année particulière où il y a deux concours. Un premier concours qui s'est fait à l'issue du M1 et un concours qui va se faire pendant le M1. Ça veut dire parce que le recrutement que l'État veut faire à ce sujet, c'est 40 000 postes sur 2 ans. Ça veut dire entre 2013-2014. Donc, on veut faire un concours. Et les autres années, c'est plutôt un concours qui se passait au début du M2. Ça veut dire qu'à la fin donc, du M1, on passait le concours en octobre-novembre, on avait les résultats en janvier. Donc, c'est, grosso modo, les concours se passent à peu près aux mêmes périodes, aussi bien PE, donc professorat des écoles, que ce qu'on appelle les professeurs des lycées et collèges, autrement dit les PLC. Derrière, il y a aussi l'agrégation qui ne rentre pas dans ce cadre-là, mais auquel on prépare par ailleurs. Donc maintenant, le concours, il y a une période qui est déterminée, mais il y a aussi une période d'inscription au concours. Il faut dire aussi qu'il ne faut pas être dans une formation pour pouvoir s'inscrire. Il suffit de justifier d'un niveau bac plus 5 une fois qu'on a le concours. C'est-à-dire pour pouvoir, c'est quelqu'un qui est ingénieur, qui est master dans une autre formation, peut effectivement donc concourir. Ce qui va apparaître dans la prochaine habilitation, c'est que lorsque quelqu'un a son concours, puisqu'il aura l'admissibilité, pardon, c'est la partie écrite. Après, il y a l'admission, c'est la partie littorale et la partie où c'est professionnel. Et va rentrer dans M2, quelqu'un qui vient de l'extérieur, au lieu de faire de l'alternance, il sera obligé de valider quelques ECTS qui concernent la professionnalisation.
Quelques quoi?
ECTS, c'est disons quelques crédits dans la formation. Une année de master ou de licence, une année de formation à l'université dans le cadre de LMD, c'est 30 ECTS par semestre, donc 60 donc par an, et ils doivent valider au moins 20 dans l'année pour être titularisés, s'ils ont un diplôme par ailleurs. Ça veut dire que on tient compte cette fois-ci de la professionnalisation pour pouvoir accéder à ces métiers-là. Donc les concours sont différents. PE, donc pour professeur à des écoles, PLC pour professeur lycée et collège. Dans les PLC, il y a des spécialités. On peut être professeur, donc c'est le CAPES, certificat d'aptitude à enseigner des mathématiques, de la physique, de la chimie, des sciences de la vie et de la terre. Donc chaque concours, effectivement, est différent. Le concours PE est plutôt pluridisciplinaire, puisqu'il est appelé à celui du calcul, des sciences naturelles, des choses comme ça, alors que lorsqu'on est en maths, on est plutôt un concours plutôt mathématique. Donc chaque concours est différent. PE, professeurat donc des écoles, est un concours régional. Le PLC, c'est un concours national. Le nombre de postes cette année, je pense que sur le premier degré est de 9 000 sur l'échelle nationale et vont être répartis sur les académies. Et le second degré, il est de 11 000, par exemple, pour l'année 2013.
C'est peut-être plus facile pour quelqu'un qui concourt dans le Nord-Pas-de-Calais de trouver un emploi dans le Nord-Pas-de-Calais que quelqu'un qui est dans une région où il fait beau, etc., non?
Ah, tout à fait. C'est certain que si on veut rester dans le plus sûr, c'est de passer le PE parce qu'on passe dans le Nord-Pas-de-Calais, on
Ouais,
reste
ça c'est.
effectivement dans le Nord-Pas-de-Calais. Par contre, quand on passe, généralement, c'est l'État qui décide de l'affectation. Et que si on veut muter, vous savez qu'il y a des points qu'on comptabilise suivant l'expérience, suivant les années qu'on passe, suivant qu'on est marié, qu'on a des enfants et qu'on a fait certaines zones pour pouvoir choisir son point de chute. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va avoir son master, je ne sais pas moi, pour enseigner les mathématiques et le CAPES de maths, puisse tout de suite aller enseigner à Nice ou, mais peut-être dans 5 ans ou 6 ans.
Alors c'est vrai que j'ai vu des Niçois qui ont débarqué dans la région Nord-Pas-de-Calais. Bon, c'était un peu bienvenue chez les ch'tis, hein, quand ils sont partis, ils ont pleuré.
Bien sûr, on dit toujours, on pleure quand on arrive, on pleure quand on repart, ce qui est tout à fait logique. Juste une chose là-dessus, c'est que on a une région, c'est peut-être la seconde région d'un point de vue de formation, donc d'étudiants, au nombre d'étudiants dans notre région. Mais c'est aussi une région qui attire beaucoup d'étudiants de l'extérieur. Les règles globalement sur les masters dits scientifiques, maths, physique, voire informatique, on a à peu près 45% d'extérieurs qui viennent sur notre région. Et dans les sciences économiques gestion, on passe même à plus de 50%. C'est-à-dire qu'on a quand même une attractivité, mais ça ne veut pas dire que les étudiants que nous formons restent ici. C'est plutôt même les étudiants que nous formons, qui sont originaires donc, du Nord ou du Nord-Pas-de-Calais, vont plutôt travailler effectivement à l'extérieur parce qu'il y a peut-être plus de travail à ce niveau-là.
Voilà. Bon, on a un petit peu le panorama de ce qui est possible de faire. Donc là, on est en janvier. Quelles sont les prochaines étapes par rapport à ces recrutements et par rapport à ces formations et l'adéquation entre les deux ?
Les recrutements, je pense que le concours, l'ouverture, l'inscription au concours est ouverte. Ça doit être à partir du 15 janvier jusqu'à mi-février ou quelque chose comme ça. Après, pour les étudiants qui sont actuellement dans M1, doivent pouvoir passer le second concours qui doit avoir peut-être lieu en mars-avril. J'avoue que je n'ai pas la date en tête. Après, en juin, les M2, ceux qui ont déjà passé le concours et qui sont admissibles, vont passer leur oral. C'est bien qu'en septembre 2013, ils vont rentrer, je dirais, en activité. Les étudiants qui vont passer le deuxième concours, mais ce deuxième concours est ouvert aussi aux étudiants qui n'ont pas réussi le premier, qui a eu lieu vers octobre. Ces étudiants-là vont repasser l'admission en septembre de l'année d'après, en juin de l'année d'après, pour rejoindre leur lieu de travail. Après, l'ESPE doit s'ouvrir, ça veut dire que les ESPE, ce qu'on appelle les ESPE, c'est l'école donc supérieure de professorat et de l'éducation, vont s'ouvrir au 1er septembre 2013. Ça veut dire que nous allons très très bientôt, il faut être très réactif pour faire tous les dossiers. C'est déjà commencé. Ça veut dire qu'est-ce que fait l'ESPE, quelle est son offre de formation. Ça veut dire respecter un peu le cahier des charges donc, du ministère. 1er septembre, donc on ouvrira de nouvelles formations par rapport à celles qui existent actuellement. Et ces étudiants-là ont, à la fin de leur M1 ou pendant leur M1, parce que ce n'est pas encore fixé, ça veut dire l'année universitaire 2013-2014, je dirais vers le milieu de l'année, ils vont devoir passer de nouveau le concours. Et ces étudiants-là vont passer l'admissibilité, puis après en juin l'admission, et l'année d'après ils seront en M2, ça veut dire à la rentrée 2014, ils vont être en alternance. Une partie dans l'école où ils doivent travailler, ou dans une école où ils vont faire des enseignements avec un tuteur, et une partie à l'université pour poursuivre effectivement la formation. Et lorsqu'ils auront leur M2, donc leur diplôme de master, ils seront titularisés.
Alors, pour ceux qui ont connu l'époque des écoles normales, voire des IUFM qui ont suivi, est-ce que le dispositif actuel amène également une professionnalisation et comment ça se passe ?
Je pense qu'actuellement, ça veut dire avant, ça veut dire l'année en cours. Ce qui concerne notre région, on a des masters qui sont cohabilités, ça veut dire qu'on porte avec différents établissements. On a des masters avec l'Artois, avec l'ULCO, avec Valenciennes. Il y a deux unités qu'on dit de professionnalisation que nous avons confiées, que les présidents ont confiées à l'UFM. L'UFM étant actuellement une école interne de l'Université de l'Artois. C'est elle donc qui assure ça. Ils ont donc des stages, ils font des langues, ils font de l'informatique instrumentale, on les mène à la certification, on les prépare plutôt bien, je dirais, par rapport à d'autres qui peuvent passer un concours sans avoir été dans une école. Donc dans notre région, je pense que ça fonctionne bien. Après, ça va changer, puisqu'après, c'est l'ESPE, qui n'est pas l'UFM, mais quelque chose d'autre, qu'on va accréditer à partir de 1er septembre, qui ouvrira les portes à la première promotion. Donc la première année de master, ce qu'on appelle le M1, des nouveaux enseignants. Et ces enseignants-là seront en alternance. Ça veut dire qu'ils vont avoir encore un peu plus de contact avec les élèves avant de prendre la responsabilité en tant que titulaire, voire en tant que stagiaire, fonctionnaire stagiaire dans une classe. Alors qu'actuellement, ils font des stages d'observation. Ils sont à deux, voire à quatre dans une classe. Ils font des stages de pratique dite accompagnée, ça veut dire qu'ils font un cours avec un autre prof, et ils font aussi des stages, trois stages différents, disons en responsabilité, où ils peuvent être seuls dans la salle, mais pas tout le temps.
Mais M. Salamaouche, on a bien compris cette situation qui est encore complexe, mais qui commence à s'éclaircir en fin d'émission, tout au moins. On peut donner peut-être un point de chute pour les gens qui cherchent à intégrer ces dispositifs.
Je pense que le point de chute, vous voulez dire pour s'y inscrire, pour, je pense que les universités qui préparent sur notre région, sur ce qui concerne les sciences, donc ça veut dire mathématiques, physique, chimie, SVT, sciences et vie de la Terre, voire économie, sociologie et économie, gestion, c'est Lille 1. On part aussi avec d'autres universités, mais ils peuvent venir à Lille 1. Donc, ils s'adressent aux services d'orientation. On peut leur donner des adresses. Pour d'autres formations concernant les, je dirais, les lettres, les langues, c'est plutôt Lille 3. Pour ce qui concerne le sport, donc c'est au STAP, c'est Lille 2. Et puis, il y a d'autres universités, comme le Valenciennes, l'Artois et l'ULCO, qui préparent aussi avec nous. Ça veut dire que ce sont des classes qui sont aussi ouvertes au littoral ou à l'Artois.
Bien, monsieur Salamaouche, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et très bonne année.
Merci à vous aussi. Au revoir.